Radio Kapi. Le journal Babel Pongo Matimango.
L'Afrique du Sud va rapatrier ses derniers contingents encore engagés dans la MONUSCO dans les prochains jours. La mission onusienne qui l'annonce remercie le pays de Nelson Mandela pour son soutien continu et les sacrifices consentis. Elle dit travailler pour que cette transition soit gérée de façon responsable. Accord économique États-Unis et RDC, la première réunion du comité de pilotage conjoint chargé de mettre en œuvre l'accord de partenariat stratégique entre les deux pays a eu lieu jeudi à Washington. Des détails dans ce journal. Depuis septembre de l'année dernière, le taux de change du dollar américain est en baisse en RDC. Cependant, la chute du billet vert n'a pas eu un impact considérable sur le panier de la ménagère. Pour en parler, nous recevons Mathieu Takizala, entrepreneur et analyste économique. Madame, Monsieur, bonjour. La MONUSCO annonce le retrait des derniers contingents sud-africains. Dans un communiqué publié ce 8 février, la MONUSCO indique avoir été informée par le secrétariat de l'ONU que l'Afrique du Sud retirera ses derniers soldats encore engagés au sein de la mission. Elle exprime sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple sud-africain pour leur engagement de longue date en RDC, ainsi qu'aux casques bleus qui ont servi parfois au prix de leur vie sous le drapeau des Nations Unies. On écoute à ce sujet Kadilo, au porte-parole de la MONUSCO, dans ses choisi par Jude Mister Bilanda.
La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo exprime sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la République d'Afrique du Sud pour leur engagement constant depuis plusieurs décennies en faveur des opérations de maintien de la paix, ainsi que pour le dévouement dont ont fait preuve les casques bleus sud-africains dans l'exécution du mandat de la MONUSCO. La mission rend également hommage aux casques bleus sud-africains tombés sous le drapeau des Nations Unies au service de la paix en République démocratique du Congo et salue leurs sacrifices. La MONUSCO se réjouit de poursuivre le dialogue avec la République d'Afrique du Sud sur les questions plus larges relatives au maintien de la paix, notamment le partage des enseignements tirés et le soutien continu aux efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité. La MONUSCO travaillera en étroite coordination avec le secrétariat de l'ONU et les parties prenantes concernées afin que toute transition liée à cette décision soit gérée de manière sûre, ordonnée et responsable, conformément aux normes des Nations Unies et aux exigences opérationnelles.
À propos justement du travail des casques bleus sur terrain, des représentants des sites déplacés de Loda et Djeiba en territoire de Djougou en Ituri disent être reconnaissants envers les casques bleus de la MONUSCO pour la protection dont ils bénéficient. Ils l'ont dit lors de la visite d'une délégation des États membres siégeant à la 5e commission de l'ONU chargée du budget, des finances et de l'administration. Cette mission visait à évaluer les besoins afin d'améliorer la protection des populations dans un contexte marqué par les conflits armés. Que retenir d'autre de cette rencontre, Jean-Claude Lautier?
Au cours des échanges, les diplomates ont voulu mesurer l'impact de l'action de la MONUSCO et identifier les défis liés à la protection des civils. Un bilan jugé encourageant par Jean-Baptiste Banga, déplacé, qui appelle au désarmement des groupes armés, condition essentielle pour un retour durable de la paix.
Sans MONUSCO, nous ne pouvons pas même vivre dans ces sites. Même sur nos champs, c'est toujours sous la protection directe de la MONUSCO. Mais cependant, que la MONUSCO fasse sont mieux avis de faire désarmer ces groupes armés qui nous menacent par-ci par-là.
Pour sa part, le colonel Rufin Mapela, administrateur du territoire de Djougou, regrette la fermeture de certaines bases de la MONUSCO dans la zone, une situation susceptible de fragiliser les efforts de restauration de l'autorité de l'État.
Prenons par exemple, si on ferme les sites de la MONUSCO d'ici de Djaïba, toutes ces populations qui sont dans les sites, qui vont les protéger? Or, ici, ils doivent avoir les moyens pour qu'on puisse arriver à mettre ça à la disposition des contingents, ce qui est très important pour nous. Et c'est ce que nous demandons, que cette commission puisse revoir la situation financière au sein de la MONUSCO pour que nous soyons vraiment dans les bons sens dans nos missions.
Sur le terrain, les populations espèrent désormais que cette visite débouchera sur des décisions capables de renforcer leur sécurité au quotidien. De retour des Fataki, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Merci Jean-Claude. Attaque par drone menée contre l'aéroport de Kisangani dans la province de la Tchopo. Nous en parlons encore. Le président de la commission de l'Union africaine exprime sa plus vive préoccupation et condamne avec la plus grande fermeté cette attaque revendiquée par le mouvement armé FC-123. Dans un communiqué de presse publié vendredi, Mahmoud Ali Youssouf souligne que cette attaque dirigée contre une infrastructure aéroportuaire située dans un centre urbain majeur et exposant gravement des populations civiles constitue une violation grave du droit international humanitaire, notamment des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Des précisions avec Grace Hamzati.
Le président de la Commission de l'Union africaine rappelle qu'en l'absence de preuves établissant de manière objective le caractère strictement militaire de la cible, une infrastructure aéroportuaire conserve sa présomption de bien civil et bénéficie à ce titre d'une protection pleine et entière en vertu du droit international. Au regard des instruments pertinents de l'Union africaine, en particulier la Convention de l'OIA de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son protocole de 2004, le président de la Commission estime que cette attaque est susceptible de relever de la qualification d'acte terroriste. Il réaffirme avec force que les groupes armés non étatiques ne sauraient invoquer aucune justification politique, sécuritaire ou militaire pour légitimer des actes visant ou mettant en danger des civils ou des infrastructures à usage civil. Le président de la Commission met par ailleurs en garde contre l'élargissement du théâtre des hostilités à des villes éloignées des lignes de front, une évolution qu'il qualifie de facteur majeur d'escalade, faisant peser des risques inacceptables sur la stabilité nationale et régionale, ainsi que sur la situation humanitaire déjà critique dans l'est de la RDC. À cet égard, il appelle l'AFC-M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités, à renoncer à l'usage des moyens et méthodes de guerre indiscriminées et à se conformer strictement aux engagements pris dans le cadre des efforts de paix en cours.
Le gouvernement congolais a validé vendredi la feuille de route de la stratégie pour la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo. L'adoption de ce document a eu lieu après la séance d'harmonisation de vues des animateurs du Fonds national de réparation des victimes, FONAREV, et de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, SIA AVAR, autour du ministre des Droits humains. Explication avec Blaise Ndongala.
Au cours de cette réunion, le ministre Samuel Mbemba et ses interlocuteurs ont échangé sur les actions à mener sur les plans national et international, notamment la conception et l'élaboration d'un avant-projet de loi portant préservation et protection du patrimoine mémorial relatif aux crimes internationaux commis sur les sols congolais. Ils ont également projeté la tenue d'un dialogue avec les membres du gouvernement et ceux de l'Assemblée nationale élargie aux membres des commissions parlementaires et au Sénat, ainsi qu'aux corps diplomatiques accrédités en RDC. Samuel Mbemba a également expliqué que la finalité de cette démarche est la reconnaissance effective par les États et les organisations internationales des génocides commis en RDC par les Rwandais.
C'était une séance d'harmonisation des vues avec les FONAREV et la CIAVAR sur la manière de mettre en pratique les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République et l'encadrement de son Excellence Madame la Première Ministre dans les domaines de la lutte pour la reconnaissance nationale et internationale des génocides commis en République démocratique du Congo par le Rwanda.
Il a par ailleurs souligné que la clôture de l'atelier des rédactions du rapport sur les violations des droits humains commises à Goma et à Bukavu a été renvoyée au 14 février courant.
Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux prend des mesures rigoureuses pour garantir une gestion transparente des ressources allouées au FIVAO, au Fonds d'indemnisation des réparations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Dans cette optique, Guillaume Ngefa a publié récemment deux décisions importantes. La première suspend le président du conseil d'administration du FIVAO et la seconde nomme Dismas Kitengesenga en qualité de président du conseil d'administration intérimaire de cet établissement public. Qu'est-ce qui justifie cette double décision et qui est le nouveau PCA intérimaire du FIVAO, Jacques Omokonko l'explique.
Ces arrêtés du ministre de la Justice sont pris dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres relatives au FIVAO. À la suite des allégations portées à l'encontre du PCA Bernard Kalombola, ce dernier est suspendu. Afin de pallier la vacance du poste, Guillaume Ngefa, ministre de la Justice, a procédé à la nomination de Dismas Kitengesenga, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme et de développement. Sa nomination est consécutive à sa longue et riche expérience d'une trentaine d'années, notamment dans la lutte pour le respect de tous les droits des populations, notamment les vulnérables et les victimes des crimes nationaux et internationaux. Son expertise a été sollicitée dans le processus de la réforme de l'état des droits, de la mise en œuvre des mécanismes de la justice transitionnelle et des droits des défenseurs des droits de l'homme. Dismas Kitenge a suivi diverses formations sur la prévention et gestion des conflits. Grâce à son expérience, il a exercé 3 mandats consécutifs, soit 9 ans au total, comme vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, de 2007 à 2016. Il est également bénéficiaire de plusieurs prix et distinctions honorifiques, tant au pays qu'à l'étranger. Enfin, sur le plan scientifique, il est chef de travaux et doctorant en sciences politiques à l'université de Kisangani. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Les États-Unis et la République démocratique du Congo réaffirment leur volonté d'approfondir leur partenariat stratégique. Les deux pays ont tenu jeudi 5 février à Washington la toute première réunion du comité de pilotage conjoint chargé de mettre en œuvre l'accord du partenariat stratégique États-Unis-RDC. Une rencontre marquée par la désignation par Kinshasa de la liste initiale des actifs de la réserve d'actifs stratégiques ouvrant la voie à de futurs investissements américains, notamment dans les secteurs des minerais critiques. Les deux gouvernements insistent aussi sur le lien essentiel entre développement économique, paix et stabilité dans l'est de la RDC. Benjamin Moudoumbi nous en dit plus.
Selon le communiqué du département d'État, les États-Unis et la République démocratique du Congo ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la croissance économique, de la stabilité et de la prospérité à l'occasion de la réunion inaugurale du comité des pilotages conjoints. Cette première séance a officiellement lancé la phase opérationnelle de l'accord et a permis au gouvernement congolais de présenter la liste initiale des actifs de la réserve d'actifs stratégiques. Ces actifs auxquels les entreprises américaines auront un accès préférentiel doivent favoriser des investissements porteurs de stabilité, de transparence et d'opportunités d'emploi en RDC. La désignation de ces actifs est considérée, selon le communiqué, comme une avancée majeure vers la création de conditions favorables à des investissements significatifs dans les secteurs de minerais critiques. Le communiqué souligne par ailleurs que la paix et la sécurité demeurent fondamentales pour la réussite de ces partenariats. Les deux pays ont dû se quitter des actions menées pour stabiliser l'est de la RDC et ont rappelé que les progrès économiques ne peuvent être dissociés de la consolidation de la paix, de la préservation de l'intégrité territoriale et de la stabilité nationale. Washington et Kinshasa réaffirment leur détermination à concrétiser pleinement l'accord afin de libérer les potentiels d'investissement de la RDC et d'en faire bénéficier les deux pays.
Éducation sans délai lance une nouvelle vague d'assistance pour la résilience éducative face à la crise dans l'est de la RDC. C'est grâce à une subvention de 10 millions de dollars américains sur 2 ans que plus de 62 600 enfants de l'Ituri, avec une priorité accordée aux filles et aux plus vulnérables, bénéficient d'un accès sécurisé à l'éducation et à la protection. Ceci est contenu dans un communiqué publié à Kinshasa ce vendredi 6 février, dont une copie est parvenue à Radio Okapi. Placée sous la coordination de l'UNICEF en partenariat avec Save the Children, World Vision et loin local Femmes Dynamiques pour le Progrès Social. Ce programme a pour mission de restaurer un environnement éducatif sûr. Jude Mister Bilanda pour les détails.
D'après ces communiqués, la vague de violence et d'insécurité qui frappe l'est du pays depuis 2025 a forcé des dizaines de milliers de familles à fuir. L'ampleur des destructions dans les zones affectées a fortement affecté l'accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance. Les enfants payent les plus lourds tributs, insécurité, traumatisme, déplacement, famine et risque de protection. Selon Graham Lang, directeur AI de l'éducation sans délai, en Ituri comme dans l'ensemble de l'est de la RDC, des millions d'enfants voient leur avenir compromis par la violence et les déplacements. L'éducation est leur seule bouée de sauvetage. Elle protège, redonne espoir et agit à titre de levier essentiel de résilience pour les communautés. Pour Mariam Silla, représentante adjointe de l'UNICEF en RDC, ces financements contribuent à la mise en œuvre de la stratégie de l'éducation et de la formation en situation d'urgence récemment adoptée par le gouvernement. La réussite du programme repose sur l'implication soutenue des autorités et des communautés locales. Cette synergie est indispensable pour assurer la continuité éducative et garantir à chaque enfant le droit de retrouver le chemin de l'école en dépit des crises humanitaires, ajoutent les communiqués.
Près de 3500 enfants en rupture de liens familiaux vivent dans la rue à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Cette situation interpelle un groupe de jeunes qui a fait un plaidoyer aux autorités de la province sur les conditions de vie précaires de ces enfants. C'est à travers un mémorandum que ces jeunes ont déposé vendredi au gouvernorat du Haut-Katanga au cours de la réunion du Conseil provincial des ministres. Paula Munanga revient sur les problèmes auxquels font face ces enfants.
Dans leur mémorandum, ces jeunes demandent au gouvernement provincial du Haut-Katanga de construire beaucoup de centres d'accueil pour les enfants en rupture des liens familiaux, leur offrir un encadrement approprié qui pourrait les motiver à quitter la rue. Il y a lieu aussi d'offrir à ces enfants l'accès aux soins médicaux. Ces jeunes exhortent le gouvernement provincial du Haut-Katanga d'associer la police à la gestion de la présence de ces enfants vulnérables en usant de l'interpellation, la dissuasion et la persuasion. Il est question aussi d'augmenter les budgets destinés à la protection de ces enfants sans abri, soulignent les jeunes dans leur mémorandum. Ces enfants sont à la base d'actes d'agression, de vols et de menaces sur des paisibles citoyens dans la ville de Lubumbashi. Pour rappel, des centaines de jeunes présumés délinquants de Lubumbashi ont été transférés dernièrement au service national de Kanyamakasese dans le Haut-Lomami pour l'apprentissage des métiers. Signalons qu'une enquête qui s'est étalée sur une période de 3 ans a été menée par ces jeunes en collaboration avec la division provinciale du genre, avec l'UNICEF et a permis d'identifier près de 3500 jeunes en rupture familiale à Lubumbashi. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La présidente tanzanienne a reçu vendredi à Dar es Salaam son homologue ougandais. Outre la paix, la sécurité, les échanges entre Yoweri Museveni et Samia Suluhu Hassan ont aussi porté sur l'économie, notamment les travaux de l'oléoduc est-africain qui serait en cours selon la présidente tanzanienne. Également l'accès des commerçants ougandais aux ports de Tanga et de Dar es Salaam.
L'invité.
Depuis septembre de l'année dernière, le taux de change du dollar américain est en baisse sur le marché congolais, une évolution saluée par de nombreux ménages dont le dollar influence directement le coût de la vie en République démocratique du Congo. Cependant, la réalité est tout autre sur le marché. Dans les boutiques, supermarchés, quincailleries, de nombreux consommateurs affirment que la chute du billet vert n'a pas eu un impact considérable sur les paniers de la ménagère. Pour en parler, Radio Capi reçoit Mathieu Takizala, entrepreneur et analyste économique, qui s'entretient ici avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour monsieur Takizala.
Bonjour monsieur le journaliste.
Comment expliquez-vous la réalité du marché après la baisse du taux d'échange?
Aujourd'hui, le marché dépend beaucoup plus des acteurs de l'informel. Hein. La formalité est faible dans la société congolaise. Nous avons des difficultés dans notre société. D'un côté, la production n'augmente pas. Dans tout ce que nous consommons, nous dépendons des acteurs de production venant d'ailleurs. Ça, c'est déjà l'une des grandes difficultés de la société congolaise. D'un côté, l'informel. Et l'informel, vous devez savoir que c'est la spéculation guette dans tous les coins. Et si nous voulons revenir pour que le marché soit régulé, il faut que la concurrence soit entre les acteurs. Aujourd'hui, nous avons une concurrence qui est déloyale.
On voit quand même une certaine stabilité. Le taux de dollar a fait plus de 4 mois, je peux dire aujourd'hui, est resté stable.
Oui, mais la monnaie, c'est quoi? C'est une valeur d'échange. On a la monnaie pour consommer, pour produire. Aujourd'hui, le taux est stable en 2023.
Oui.
Mais malheureusement, la consommation ne suit pas. Ça veut dire que comme notre consommation, on a laissé beaucoup plus aux acteurs de l'informel de nous produire. Et malheureusement, elle ne suit pas. Il y a une inflation sur la consommation. Les postes comme le transport, le poste comme le logement, le poste comme l'électricité, le poste comme la nourriture. Non, parce que c'est ça la grande adéquation de l'économie. Et la vraie économie est ficelée parce qu'aujourd'hui, les acteurs, moi-même comme entrepreneur, les acteurs structurels n'ont pas de travail.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'améliorer le panier de la ménagère? Parce que là, mais il y a des mamans qui pleurent. Hein, que l'argent que son mari lui donnait, il y a quelques mois, c'est le même argent, mais au marché, le dollar semble baisser, mais les histoires ne baissent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher à améliorer tant soit peu les paliers de la ménagère?
Il faut faire des mesures incitatives. Il faut faire un plan de relance du secteur privé en République démocratique du Congo. Cela va permettre que les acteurs qui vont nous servir dans le marché soient quand même des acteurs structurels. Aujourd'hui, la petite commerce congolaise est en difficulté parce que l'informel est tellement supérieur. Donc, et puis, relancer la production locale. Elle n'est pas vraiment financée, l'économie. Elle n'est pas financée. Vous savez, pour être chef d'entreprise en République démocratique du Congo, vous êtes le parent pauvre du système. Pourquoi? Parce que d'un côté, il n'y a pas de financement, de l'autre côté, il n'y a pas de marché. Rappelez-vous, hein, après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que les États-Unis avaient fait pour relancer l'économie productive de l'Europe? Il fallait mettre un plan. Il faut maintenant, nous, on a fait depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, il y a des programmes qu'on a essayé de faire de temps en temps, mais il faut mettre maintenant un plan. un plan de grands travaux qui va permettre maintenant de relancer l'agent économique entreprise et l'agent économique particulier. Et c'est ce qui va permettre que la production va revenir.
Le carburant a baissé depuis un moment, mais le coût de transport n'a pas changé et la population en paye les prix. Comment expliquez-vous cette situation?
Moi qui est en face de vous, je viens de voir que les Congolais, pour se déplacer, parce que même moi-même, je suis consommateur, je me déplace. Je vois que c'est extrêmement explosif. C'est trop cher. Quand vous prenez même un déroute, pourquoi tout ça? Parce que ces acteurs qui nous acheminent sont des gens du côté de l'informel. Il faut maintenant, avec cet existant, qu'on essaie un peu de les formaliser en mettant des mesures incitatives. Lorsqu'ils vont devenir formels, automatiquement, on peut les encadrer et le prix peut être régulé. Mais malheureusement, aujourd'hui, la plupart des transporteurs qui nous transportent dans la ville de Kinshasa, ce sont des acteurs de l'informel. Donc, la spéculation est là.
Donc, la solution est que l'État déverse ses bus, taxis sur la
l'État
route.
L'État doit comme chercher ça pourra la création de plusieurs entreprises structurelles dans le domaine des mobilités. Moi qui vous parle, et avec cette lancée de contrôle dans la route, on voit qu'il y a quand même, la plupart de ces acteurs se sont cachés. Et nous, dans le groupe spécial autogarage que je dirige, on a mis en place un dispositif, et je crois que dès la semaine prochaine, les autocars vont venir, on va le mettre dans le marché. Il faut maintenant que l'État cherche à avoir des alliés, les entreprises. Il doit aller autour des entreprises pour permettre à des entreprises qui sont connexes, liées avec le transport, de monter quand même des boîtes ou réguler ceux qui sont dans l'informel en mettant des mesures incitatives pour qu'ils deviennent les acteurs de formel pour que le transport devienne maintenant quand même un endroit où, parce que si le transport a de l'inflation, mais malheureusement, on ne peut pas faire le deux bout du mois du point de vue tranquille. Donc la population perd beaucoup de pouvoir d'achat pour se déplacer dans la ville de Kinshasa.
Monsieur Mathieu Takizala, analyste économique, je vous dis merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci également à vous Blaise Oshin, Dani Kambala. Merci à vous tous qui venez de nous suivre. Ce journal a été préparé par Jude Mister Bilanda, mis en onde par André Omongu. Nous vous souhaitons une excellente semaine.